Je voudrais ce matin que nous puissions, la semaine dernière, dimanche dernier, bien nous sommes arrêtés sur un texte de l'Épître de Paul à Timothée, pour ceux qui s'en souviennent, où nous avons vu comment le Saint-Esprit, dans la bouche de l'apôtre Paul, s'est livré à une exhortation particulière, certainement qui avait de l'importance au moment où l'apôtre le donne à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et puis, il lui dit, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis, il lui ajoute, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Puis Dieu nous a rappelé dans ce contexte-là, sur le plan spirituel, nous étions à considérer chacun pour sa part, comme disciples de Jésus-Christ, comme aussi des soldats de Jésus-Christ. Amen. Puis nous avons vu dans le développement de la pensée, nous aurions bien pu revenir ce matin dessus, puisqu'il y a encore d'autres points qui pourraient être vus, mais le Seigneur m'a donné une autre direction, et nous allons pour cela faire une lecture dans le psaume 46, et nous lirons les versets 1 à 3. Le psaume 46, les versets 1 à 3. Vous savez, dans les psaumes, il y a plusieurs psalmistes, plusieurs écrivains sacrés, qui ont écrit des psaumes, et celui que nous allons considérer, nous voyons en en-tête au chef des chantres, responsable de chœur, mais c'est un psaume des fils de Corée. La déclaration, elle est celle-ci au verset 2. Dieu est pour nous, dites avec moi, un refuge. Et en même temps qu'il est pour nous un refuge et un appui, et troisièmement, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que vous dites amen, frères et sœurs? Oh, c'est merveilleux quand nous lisons cela. Eh bien, je vous assure que quand nous lisons cela et que nous comprenons dans l'inspiration du Saint-Esprit, la dimension de ces paroles qui nous sont données ici, je vous assure que ça la mettrait fin, une fois pour toutes, à tout questionnement, à toute lamentation et à toute réflexion qui serait aux yeux de Dieu erronée puisqu'elle n'aurait pas de fondement en rapport avec ma réalité d'enfant de Dieu. Dieu en langage, lorsque nous écoutons Dieu parler et que nous le voyons agir, au travers duquel, frères et sœurs en Christ, le négatif est banni à jamais. Si Dieu venait me voir, il me dit, Claude, j'ai un grand problème. Alors je dis, mon Dieu, mais moi aussi j'ai un grand problème avec toi. Car si toi qui es mon Dieu, en qui je me confie, tu me dis que tu as un problème, alors moi, là, le problème pour moi, il est multiplié par 10, par 1000, par 100, par 10 000. Mais notre Dieu, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous rappelle non seulement qu'il est au-dessus de tout, qu'il contrôle tout, qu'il dirige tout, qu'il sait tout, qu'il peut tout et qu'il voit tout. Donc avec une telle réalité dans laquelle le Saint-Esprit nous introduit, eh bien, nous pouvons être d'accord avec le psalmiste, les fils de Corée, qui déclarent que Dieu est pour nous. Et vous voyez qu'il n'a pas dit Dieu est pour moi, mais Dieu est pour nous. Ça veut dire que quand Dieu agit, frères et sœurs en Christ, il est capable de protéger l'ensemble de ceux qui lui appartiennent. Et ceux, quelle que soit leur origine, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur pays, leur origine, Dieu est pour nous un refuge, premièrement, et un appui. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, dit-il, eh bien, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause, réflexion. Et ce que je lis là ce matin, ce que nous lisons ce matin, frères et sœurs en Christ, nous oblige à regarder à celui qui a créé le ciel et la terre. La mer et tout ce qui s'y trouve, l'univers et tout ce qui s'y renferme. À celui qui a créé le monde par sa sagesse, qui a déployé les cieux par son intelligence et qui a fondé la terre par sa puissance. À celui qui, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rappelle qu'il a créé l'infiniment grand comme l'infiniment petit. N'est-ce pas? Mais il nous rappelle surtout qu'il a créé toutes choses par Jésus, pour Jésus et avec Jésus. Alléluia! Et il nous rappelle surtout qu'il est un Dieu qui fait alliance, mais derrière son alliance conclue, il y a toujours ses promesses, et en sa qualité de ce que je viens de vous exposer, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne revient jamais à lui sans accomplir son effet. Alors ce matin, frères et sœurs en Christ, si nous lisons cela, c'est parce que Dieu veut nous rappeler ce grand principe divin qui doit être notre part et notre lot comme ses enfants, pour que malheureusement, lorsque souviendrait dans nos vies des situations, comme la parole de Dieu vient de nous le rappeler, où nous nous approcherions de la détresse. Vous savez, la détresse, eh bien, elle commence à se dessiner lorsque l'épreuve s'est installée, dans la durée, et que malgré les nombreuses prières que nous aurions adressées à Dieu, malgré les supplications, malgré l'attente de son intervention, eh bien nous voyons que rien ne bouge, selon nous. Parce que c'est pas parce que moi je ne vois rien qui bouge que du côté de Dieu que tout est statique. Non, Dieu me rappelle ce matin que ses voix ne sont pas mes voix et que ses pensées ne sont pas mes pensées. Et puis, pour m'amener dans sa réalité à lui, eh bien, il va prendre l'image de la distance de la terre vers le ciel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre pour nous montrer combien ses pensées diffèrent de nos pensées et combien ses voix diffèrent de nos voix. Autant mes voix diffèrent de vos voix et mes pensées de vos pensées. Mais malgré tout cela, il nous a donné la foi. Or, la foi, vous le savez, frères et sœurs en Christ, d'après la définition faite dans l'Épître aux Hébreux, or la foi, dites avec moi, est une ferme assurance de quoi? Des choses que j'espère. Et une démonstration de ce que je ne vois pas. C'est extraordinaire. La foi me plonge toujours dans l'espérance. Espérance des choses que j'attends, mais même si je ne les ai pas encore vues se concrétiser, je les démontre. Une démonstration de ce que je ne vois pas. Et quand Dieu voit que je suis dans cette attitude-là devant sa face, même quand la détresse s'approche, je vous assure que cela lui plaît. Non seulement cela lui plaît, mais il prend un vrai plaisir à voir mon attitude. Il prend un vrai plaisir à sonder mon cœur, mais il prend surtout un vrai plaisir à ce qui sortira de ma bouche au moment où la détresse semblerait s'approcher de moi et me causer véritablement des soucis à l'intérieur. Parce que, frères et sœurs en Christ, lorsque je connais la détresse et les combats, lorsque je suis confronté à une situation, eh bien là, obligatoirement, par rapport à la situation que je vis, suite à mon état d'esprit et de cœur, la réflexion, alors il sortira de ma bouche. Parce que le diable, l'ennemi de mon âme, eh bien, me poussera toujours devant la situation, eh bien, à adopter une attitude qui fort souvent est le contraire de ce que Dieu voudrait. Par une confession, par, eh bien, une précipitation. Le psalmiste disait, je disais dans ma précipitation, quoi? Je suis chassé le nom de ton regard. Non. Dans la précipitation, frères et sœurs en Christ, fort souvent nous sortons du cadre de ce que Dieu nous assigne, qu'il voudrait pour nos vies. On prend le téléphone, un coup de fil. On écrit une lettre. On appelle celui-là. Non, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le repos et la sécurité que sera votre salut. C'est ce que Dieu dit à son peuple. Mais il rajoute, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais quand Dieu voit que je le veux, non seulement je le veux, mais je le fais, alors il dit, Claude, ton attitude me plaît. Et puisque ton attitude me plaît, je m'occupe personnellement de la situation qui est la tienne. Et je vais mettre maintenant en place les choses pour concrétiser de manière visible ce que tu avais dans le cœur et qui t'a conduit à te réfugier dans la prière. Voilà le refuge. Notre Dieu est pour nous un appui, un secours, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse, que Dieu soit béni. Mais un autre psalmiste, frère et sœur en Christ, va aussi nous parler dans le psaume 142, avec la déclaration du premier psalmiste, les fils de Corée. Ça stimule la foi et ça nous donne véritablement à savoir, lorsque la détresse s'approcherait, trouver dans la confession des Saintes Écritures le bannissement de tout ce qui serait négatif et qui déplairait à mon Père Céleste, à mon Dieu. Puisque quand mes yeux, ce regard s'arrête sur ce à quoi je suis confronté, obligatoirement, mon esprit va se mettre à spéculer. Et dans la spéculation de mon esprit, les calculs, eh bien, l'ennemi va s'infiltrer et envoyer des flèches pour montrer mes incapacités. Je vais jamais m'en sortir. Ça va jamais aller. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et toute une série de questions, frères et sœurs en Christ, qui n'ont pas lieu d'être. Parce que la Bible me dit que Dieu est pour moi un refuge. Or, vous savez fort souvent, frères et sœurs en Christ, le refuge, c'est un lieu qui existe déjà, comme une caverne, quelque chose qui est creusé, qui est créé, et où je vais trouver un appui, un abri, au moment opportun. Cela peut être aussi quelque chose créé par les hommes, parce que, en cas de guerre, paraît-il que certaines personnes fortunées, ils ont déjà créé des bunkers pour que lorsque la guerre va se déclarer, ils puissent s'y engouffrer comme des refuges. Ça, c'est encore un autre aspect. Mais dans le sens biblique, le refuge, c'est quelque chose qui est déjà créé. Demandez à Élie, il n'a pas été conduit à créer, eh bien, le refuge lorsqu'il était dans un moment particulier. Il s'est réfugié dans une caverne et Dieu a été conduit à lui dire, mais que fais-tu ici, Élie? Il dit qu'un prophète découragé, eh bien, il est dans la caverne, mais Dieu lui met dans sort. Et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et quand Dieu lui a parlé, maintenant Dieu a fait passer devant lui sa puissance. Dieu a fait passer devant lui, premièrement, un vent violent qui déchirait la montagne. Deuxièmement, Dieu a fait passer devant lui un feu consumant qui brûlait tout sous son passage. Troisièmement, Dieu a fait passer devant lui un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans les trois éléments déchaînés, mais le quatrième élément, un murmure doux et léger. Alléluia. Alors quand il a entendu ça, il s'est voilé le visage. Cela veut dire qu'il a adoré Dieu. Frères et sœurs en Christ, le vent peut être violent. Alors qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Il a montré à son prophète sa puissance se manifestant dans les éléments qu'il a créés. Mais vous verrez que lui, il n'a pas été touché. Cela veut dire que Même si tu passes par le découragement, même si le vent est contraire, même si le ciel te semble d'airain, même si tu es prêt à être emporté, même si tu passes par un moment difficile dans ta vie comme enfant de Dieu, qui friserait la détresse, Dieu n'est jamais dépassé. Il veut que tu aies, par son esprit ce matin, dans ton cœur, la réalité de sa présence, mais aussi la réalité de sa puissance et de sa capacité, comme Jésus dans la barque avec ses disciples, de dire au vent « silence », de lui dire « tais-toi ». Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut un grand calme. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, notre Dieu est là ce matin. Jésus est au milieu de nous. Et regardez-moi comme le psalmiste s'exprime. C'est David. Cantique de David. Et notez bien, lorsqu'il était dans la... Ah, il est dans une caverne. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a une situation de détresse. Dans la caverne. Et c'était, comme avec d'autres psaumes, le moment où il était poursuivi par Saül. Où sa vie ne tenait qu'à un fil. Grand danger. Et avec le grand danger, toute une série d'incertitudes qui serait à mettre en évidence par rapport à la situation. Parce que n'oublions pas que Saül était un sanguinaire. C'était pas un petit enfant de cœur, mais il avait résolu d'attenter à la vie de David. Et quand je dis attenter à sa vie, vous avez compris qu'il cherchait à le tuer. Et dans ces moments-là, frères et sœurs en Christ, tout David qu'il était, n'oublions pas qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme que Dieu a choisi. C'est un homme dans la vie duquel la providence a toujours été active et de mise dans le plan de Dieu. Et malgré tout, le voilà confronté à une situation où la parole de Dieu nous dit « De ma voix, qu'est-ce que je fais ? Je crie à l'Éternel. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Et en criant et en implorant, verset 3, je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Tu connais mon sentier, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Point. Tout refuge est perdu pour moi. Pourtant, c'est quelqu'un qui, comme moi, il avait autour de lui des hommes forts. En tant que roi, il avait une armée. En tant que roi, il avait l'approbation de Dieu. Et tout ce que nous pourrions y ajouter sur le plan humain, vous êtes toujours d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et malgré le fait qu'il crie à Dieu, il répond sa plainte, le voici qu'il déclare, tout refuge est perdu pour moi. Nous l'avons lu ou pas? Oui. Eh bien là, il y a quelque chose qui quand même demande réflexion. Oui, cela demande réflexion, frère et sœur. Et la réflexion, elle va arriver quand je continue la lecture. Tout refuge est perdu pour moi. Et il rajoute, Après, nul ne prend souci de mon âme. Verset 6, Éternel. Éternel, c'est à toi que je crie. Et quand je crie à toi, je dis, comment peut-on penser ou comprendre que d'abord il dit tout refuge est perdu pour moi, et après il dit, car tu es mon refuge. Donc il y a quelque chose qui ressemble fortement, excusez-moi, à un non-sens. Car si tout refuge est perdu pour moi, pourquoi dit-il après, tu es mon refuge? Et là, nous sommes sur deux terrains différents. Alléluia. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs en Christ. La première fois, lorsqu'il dit tout refuge est perdu pour moi, il rajoute nul. Je ne trouve personne. Là, je n'ai pas d'appui du côté humain. Les appuis humains, inexistants. Nul ne prend souci de mon âme. Alors, confession par rapport à la situation, tout refuge est perdu pour moi. Tout à l'heure, je vous ai parlé, frères et sœurs en Christ, que dans la détresse, il peut arriver que dans la réflexion, je puisse posséder ou avoir, une confession en rapport avec la situation que je vis dans la détresse. Ça ne loupe pas. Nul ne prend souci de mon âme. Alors, puisqu'il en est ainsi, alors je considère que tout refuge est perdu pour moi. Je n'ai plus d'appui sur le plan humain. Pourtant, j'ai des gens autour de moi, j'ai des conseillers, j'ai des hommes forts, mais dans cette situation-là, je ne peux compter sur personne. Eh bien, justement, frères et sœurs, il y a des moments où dans la vie, chrétienne même, comme enfant de Dieu, Dieu enlève tout appui humain. On a des gens auprès de nous. Quelquefois, ils ont été utiles. Mais il y a des moments dans la vie chrétienne où Dieu enlève tout appui humain. Pourquoi? L'Éternel est pour nous un refuge. Et après, un appui. C'est Dieu qui doit être mon appui. Et quand Dieu est mon appui, vous savez ce qu'il fait? Quand je trouve en lui le refuge, je lui dis comme le psalmiste dans le psaume 61, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Oh, le rocher, frères et sœurs en Christ, qui suivait Israël dans le désert. La Bible nous dit, c'était Christ. Venez que dans l'épreuve, Seigneur, donne-moi à mieux connaître qui est Jésus de Nazareth, afin que je puisse mieux me confier en lui, afin que je puisse mieux m'appuyer sur lui, et que dans la situation qui est la mienne, son intervention merveilleuse soit ma délivrance, et que, ayant expérimenté sa délivrance, alors ma foi grandisse, ma confiance soit encore plus entière, et que je devienne dans sa main un instrument utile pour pouvoir donner le témoignage de son intervention à ceux qui, un temps soit peu, passeraient comme moi dans un moment de détresse. Tout refuge perdu pour moi. Vous savez, quand j'ai cette réflexion-là, vous savez ce qui se passe après? Fort souvent, j'accompagne cette réflexion, tout refuge est perdu pour moi, par la déclaration, je n'en peux plus. Ensuite, j'en ai assez. Ensuite, je baisse les bras. Certains disent, avec ces moments particuliers, je prends du recul. Ensuite, je reste à la maison. Si c'est ça la vie chrétienne, je préfère rester chez moi. C'est exactement ce que ta vieille nature te commande, parce que c'est Satan qui l'alimente. Mais pas pour vous ce matin, puisque vous êtes là. Ce n'est pas votre réflexion, vous êtes là ce matin, frères et sœurs en Christ. Et puisque vous êtes là, le maître est là, alors il nous exhorte. Pour que demain, quand nous connaîtrions un temps soit peu un moment difficile, nous n'ayons pas, comme le psalmiste, cette réflexion, tout refuge est perdu pour moi. Certes, sur un plan humain, quelquefois, Dieu voit que nous nous confions plus dans l'homme que en lui. Vous savez ce qu'il fait? Non seulement il prend les choses en main, mais il a ses méthodes à lui. Et une de ses méthodes, comme cela nous est rappelé dans le livre du prophète Osée, où nous lisons ceci au chapitre 2. Dieu dit à son serviteur Osée, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, « Voici, je veux l'attirer. » Et après l'avoir attiré, et la conduire au désert. Et là, dans le désert, je parlerai à son cœur. Et là, dans le désert, je lui donnerai ses vignes. Et ensuite, je lui donnerai en même temps la vallée d'Arcor comme une porte d'espérance. Où ? Dans le désert. Vous savez, Dieu a ses méthodes. Et quelquefois, frères et sœurs en Christ, vous comme moi, on est plongé dans la réflexion. Ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, quelquefois peuvent être de grands sujets d'inquiétude, de préoccupation. Et nous comprenons pourquoi, chaque fois que Jésus parlait, dans ce que nous avons considéré comme étant sorti de sa bouche, comme des paroles dites à propos, on l'a souvent entendu dire, ne crains rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, on l'a souvent entendu dire, ne crains rien. Un jour de deuil, eh bien, il dit à la femme, ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Faut souvent, nous ne savons pas ce qu'il va faire. Nous attendons, nous espérons, nous croyons, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais comme lui sait ce qu'il va faire, on lui commence à nous dire, ne crains rien. C'est sa manière à lui de nous rassurer. Et quand il nous rassure, fort souvent, vous savez, frères et sœurs, il y a non seulement ce qui se passe à l'intérieur que les yeux de l'homme ne voient pas, mais fort souvent, quand Jésus nous dit ne crains rien, c'est là que la crainte augmente encore plus. Mais oui. Écoutez, moi je prends un exemple qui est simple. Je vais supposer que, tiens mon frère Blaise, je peux te prendre un exemple Blaise. D'accord. Rassure-toi, c'est un exemple qui est concluant. Alors nous allons supposer que Blaise et moi, nous avons été des amis très forts de très longue date. Et puis, les circonstances de la vie ont fait que nos routes, eh bien, se sont séparées. Blaise a suivi son chemin, il est parti dans un pays éloigné, et puis moi je suis parti dans un autre pays, et puis les années ont passé, et puis le souvenir de Blaise est toujours dans mon cœur, et je ne sais pas où il est, ce qu'il est devenu. Et voici que par bonheur, eh bien dans une rue de Paris, je fais mes courses, Blaise aussi, et puis nous voici qui tombons ce jour-là, nez à nez. Je vois Blaise devant moi, et qu'est-ce que je vais dire en premier? C'est pas vrai. Mais oui, je vais dire c'est pas vrai. Ça sort de ma bouche, c'est pas vrai. Pourtant, c'est bien Blaise que je vois, c'est bien lui, hein. Mais ma première attitude, c'est de dire c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui, malgré le fait que je suis dans la réalité, aura une attitude contraire. Alors, quand Jésus me dit ne crains rien, je vais pas laisser mon esprit, mes pensées, dominer sur ce que Jésus dit. Quand s'il dit ne crains rien, une parole dite à propos, c'est pour me montrer que désormais, la situation est dans sa main. Il va s'en occuper d'une manière personnelle. De telle manière que ce que mes yeux voyaient qui constitue un obstacle, à partir du moment que Jésus dit une parole, eh bien, je me réfugie dans sa parole. Je le laisse maintenant travailler. Vous avez compris l'exemple, hein? C'est un exemple humain. Et ça traduit bien, hein, frères et sœurs en Christ, quelquefois, des attitudes contraires à la logique ou à la réalité que nous sommes en train de vivre. Allez! Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Et ma confession, je dis, tu es mon refuge et mon partage sur la terre des vivants. Et puis la conclusion, c'est le verset 8. Tire mon âme de sa prison, comme une prière, afin que je célèbre ton nom. Et rajoutez avec moi, frères et sœurs en Christ, pour que le témoignage soit véritable de ton intervention dans ma vie, et afin que je sois aussi un témoin de ta capacité de sortir ton enfant de toute situation de détresse. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Et qu'est-ce qu'il dit après? Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et quand les justes viendront m'entourer parce que tu m'auras fait du bien, je ne dirai pas comme monsieur Ézéchias, je marcherai, dans l'humilité jusqu'au thème de ma vie, puisqu'il avait expérimenté un prodige de la part de Dieu, qu'il avait d'abord ajouté 15 années de vie et qu'il avait protégé, l'avait délivré d'une situation de santé. Alors, lorsque des émissaires sont venus de Babylone, parce qu'ils avaient entendu dire le prodige dont il avait été l'objet de la part de Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il avait bien dit, je marcherai humblement jusqu'au thème de ma vie, hein. Mais dès lors que les émissaires babyloniens sont venus pour voir le prodige, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rouvert la porte de ses trésors pour montrer sa magnificence et tout ce qu'il avait pu avoir comme roi d'Israël. Alors vous savez ce que le prophète Ésaïe lui a dit? Qu'est-ce que ces gens sont venus voir chez toi? Oh, il a dit, je leur ai monté tous mes trésors, etc. Alors, vous savez, la parole de l'Éternel a été adressée au prophète Ésaïe pour monsieur Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Eh bien, de la même manière que tu leur as monté tes trésors, alors tous ces trésors-là vont être transportés à Babylone. Frères et sœurs en Christ, les justes, lorsqu'ils viennent nous entourer par rapport à la grâce que Dieu nous a accordée, c'est pas pour que nous puissions montrer que nous sommes plus spirituels que les autres, que nous avons plus de valeur qu'eux. Non! Les justes viennent m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alors quand les justes viennent m'entourer, c'est pour que je te donne la gloire. C'est pour donner la gloire à celui qui est intervenu. Donner la gloire à celui qui est mon refuge. Et pour que je leur dise aussi que Dieu peut être le refuge dont ils ont besoin. Le refuge qui sera le leur, qui sera le leur, lorsque il passerait par des difficultés par où je suis passé, car si Dieu m'en a sorti, il est capable aussi de t'en sortir. Alléluia. Ah, que Dieu soit béni et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Encore une pensée? Il y a une petite sœur qui me fait... Alléluia, la parole de Dieu, elle est bonne à mon âme. Et vous? Et bien sûr, elle est bonne à notre âme ce matin, mes bien-aimés. Vous savez, quand le pasteur vient en chair, il ne vient pas pour voir vos beaux visages. Il vient parce qu'il est à son poste, comme un instrument dans la main de Dieu. Et quand le Saint-Esprit donne une direction, eh bien, écoutez, voulez-vous que nous partagions un petit peu? Si ça dépendait de moi, pasteur gentil, c'est pas ce que je vais prêcher ce matin. Non, parce que ce sujet, je l'ai travaillé hier après-midi. Mais je me disais, Seigneur, quand tu voudras. Mais quand je suis couché dans le lit ce matin, je n'étais pas encore sorti de mon lit. Hop, le Saint-Esprit s'est mis à travailler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis descendu de mon bureau, à la maison, et je commençais à travailler le sujet pour préparer. Oh, tu es déjà pratiquement prêt, puisque Dieu donne le schéma, et puis après, il va enrober le schéma par des ouvertures, des tiroirs, des paramètres. Parce que Dieu sait ce qui va faire du bien à son peuple ce matin. Alléluia. C'est ce qui est merveilleux, mes bien-aimés. Notre Dieu est là ce matin. Il est notre Père et il nous aime. Alors, pour aller plus loin, mes bien-aimés, j'ai noté encore une autre parole, toujours dans la même direction. Il y a Cette parole dans...
Ah, vous savez que je l'aime, ce verset biblique, parce que je l'ai cité quelquefois dans les messages, c'est le psaume 11. Le psaume 11, où il y a comme une déclaration du psalmiste, en l'occurrence c'est David, et il accompagne cette déclaration par des paroles de foi, des paroles véritablement où est démontrée autant sa position, mais aussi la protection dont il est assuré de la part de Dieu. Regardez avec moi le psaume 11. Là, nous sommes sur le terrain de la recherche du refuge. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Et puis, la question se pose ensuite après, comme une situation vécue, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? La raison, car voici les méchants bandes de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, dites avec moi, le juste, hop, ah. Quand les fondements sont renversés, le juste. Donc le juste, c'est pas n'importe qui. Le juste ce matin, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui avons été justifiés par la grâce de Dieu au moyen du sang de Jésus et par l'œuvre de la rédemption. Vous savez comment le Saint-Esprit, dans la bouche de l'apôtre Paul, au chapitre 5 du livre des Romains, s'explique? S'exprime, Romains 5, 1, ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Donc ça veut dire qu'une fois que nous sommes objets de la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en action va nous donner comme de la fermeté dans l'espérance. La fermeté à partir du moment que nous avons été justifiés, et cela va se traduire comme étant un dérivé direct de la paix que nous avons obtenue avec Dieu. La paix avec Dieu qui se transformera par la paix de Dieu et qui finira par la paix de la part de Dieu. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Vous pouvez rajouter la paix en Dieu, par Jésus-Christ. Enfin, il y a tellement d'attributs, mes bien-aimés, mais l'important, c'est pas de parler de la paix, c'est de vivre la paix. Donc, de la justification découle la paix. Cela veut dire que Dieu, avec qui j'étais en guerre auparavant, Dieu de qui j'étais ennemi, à cause de mes pensées, Éphésiens 2, Dieu avec qui j'ai été réconcilié, réconciliation qui s'est traduite par l'adoption, qui me fait rentrer dans cette grande famille bénie de Dieu, qui me donne de l'espérance, eh bien écoutez, autant d'attributs qui montrent que même si je peux connaître des moments particuliers, Tiens, je suis un père de famille. Où sont les pères de famille ce matin? Levez la main. Bon. Avec les pères de famille, il y a les mères de famille. Levez les mains, les mères de famille. Voilà. Donc, quand je dis père et mère de famille, cela veut dire que j'ai des enfants. N'est-ce pas? Or, supposons que l'un de mes enfants passe par un moment très très difficile où il friserait la détresse. Moi qui suis le père, toi qui es la mère, Vas-tu lui dire maintenant, débrouille-toi, je t'avais déjà parlé. Est-ce qu'on va le faire? Non. Mais on va se préoccuper de sa situation. Et si nous pouvons, nous ferons tout ce que nous pourrons pour que la situation qui a causé la détresse dans laquelle il se trouverait soit stoppée et arrêtée. C'est comme ça que ça se passe en principe. Si je suis un bon père pour mon enfant, je tâcherai de venir à son secours et je mettrai en place tout ce qui convient pour qu'il puisse s'en sortir. C'est humain, n'est-ce pas? Alors moi, je suis qu'un tout petit bonhomme d'argile. Mais le grand Dieu, notre Père, qui est là ce matin, qui connaît chaque situation, et comme cela a été présenté en notre matière, il connaît tout, il voit tout, il sait tout, et il peut tout. Alors qu'est-ce que ça lui coûte d'intervenir pour te sortir et te délivrer de la situation de détresse dans laquelle tu te trouverais? C'est pourquoi il met devant toi ce matin la réalité du refuge qu'il est pour le juste. C'est en l'Éternel que je trouve un refuge. Le juste, que ferait-il? Alors, la réponse arrive. Que ferait le juste? Alors, la réponse arrive. L'Éternel est dans son saint temple. Alléluia. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le juste. Parce qu'il veut voir dans ton cœur ce matin. Quel degré de foi, quel degré de confiance, quelle attente, quelle espérance tu as placée en lui. Et ça, malgré la situation, l'épreuve et le combat. Je l'avais dit qu'il te donne au travers de ses paroles, même si tes yeux ne voient encore rien se faire, de l'espérance. Pour que tu puisses t'agripper à ce qu'il te dit jusqu'au moment où il va bousculer les circonstances pour qu'enfin les choses changent. Pourquoi? C'est parce qu'avec Jésus-Christ, les choses changent. Tiens, il y avait longtemps que je n'avais pas dit ça. Bon, je le dis souvent en évangélisation. Mais avec Jésus-Christ, les choses changent. Alors ce matin, attends-toi à ce que Dieu, au cours de la journée, ou demain matin, ou dans la semaine, fasse un bouleversement. À partir du moment que ce matin, tu trouves en Jésus-Christ le refuge. Dieu, notre Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, la terre peut être bouleversée, mais Dieu est toujours ton Dieu. Il est ton Père et il est au milieu de nous ce matin. Prions le Seigneur. Et si Dieu le permet, dimanche prochain, s'il le permet, alors nous allons revenir là-dessus et vous allez voir encore comment, en cheminant dans le sujet, nous allons arriver, frères et sœurs en Christ, à l'ultime étape de l'existence terrestre où Dieu, malgré cela, a préparé néanmoins le refuge pour ton âme. Alléluia. Je ne vous le dis pas, on va le voir quand le moment sera venu. Prions le Seigneur. Mon Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Tu as dirigé mon frère Bruno dans ce cantique où il a été parlé de refuge. Et je ne puis ce matin que te bénir, mon Dieu, mon Père, parce que c'est toi qui par le Saint-Esprit et ce, quelles que soient les circonstances, tu sais mettre, mon Dieu, en évidence ta pensée. Et pour que ta pensée, Seigneur, soit communiquée, alors tu utilises ta parole. Car dans ta parole, il y a l'expression de ta pensée, mais il y a aussi surtout l'expression de ta volonté. Un grand merci, mon Dieu, ce matin, pour ta parole que tu nous as donnée à partager. Mon Dieu, tu connais la situation de chacun de tes enfants et tu sais que quelquefois, mon Dieu, il y a des situations qui sont difficiles, autant à vivre qu'à supporter. Autant à vivre qu'à supporter, aussi qu'à concevoir. Quelquefois, Seigneur, nous avons même des fois beaucoup de difficultés à admettre.
Mais ce matin, tu nous as parlé. Et quand tu nous parles, c'est toujours à bon escient, quand tu connais exactement tout ce qui se passe en détail dans la vie de chacun de tes enfants. Alors ce matin, Père, puis-je te demander une grâce? Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis l'œuvre de tes mains. Et que ta grâce, mon Seigneur, soit le partage de nous tous. Que ton nom soit pleinement béni et glorifié. Je t'adore, mon Père céleste. Mon Dieu, je t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Amen.